Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour, bon après-midi à vous fidèles auditeurs de Radio Okapi. Bienvenue dans ces nouveaux rendez-vous de votre magazine préféré Bana Okapi. L'émission qui donne la parole aux enfants, aux jeunes et aux parents avec le soutien de l'UNICEF. Imaginez un instant que vos jeunes frères, vos petites sœurs, au lieu de courir dans la cour de récréation ou d'apprendre leurs leçons, soient contraints de travailler dur, parfois dans des conditions dangereuses, pour gagner quelques maigres sous. Qu'est-ce qui vole l'innocence d'un enfant? Qu'est-ce qui remplace le rire par la fatigue, le jeu par les labeurs? Une ombre plane sur l'enfance de beaucoup d'enfants à travers le pays. L'exploitation économique, des enfants contraints de travailler pour survivre, une réalité qui nous interpelle tous. Aujourd'hui, dans votre émission Bana Okapi, nous ouvrons les yeux sur l'exploitation économique des enfants. L'heure de l'action a sonné, agissons tous, ensemble. Dans ces programmes, vous suivrez le témoignage des enfants vendeurs ambulants, de reportages de terrain sur le travail des enfants. Nous donnerons également la parole aux parents et aux experts de la protection de l'enfance. Je suis Christelle Fritti à la présentation de cette émission qui va se dérouler jusqu'à 17h, heure de Kinshasa. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa assure la mise en onde. Christian Mapendanoya Chris coordonne ces programmes sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Monfelele Dijano.
Okapi, Okapi, Okapi.
Exploitation économique des enfants en RDC, agissons tous ensemble. Pour mieux comprendre l'ampleur de ces fléaux, nos reporters sont allés à la rencontre de ces enfants dont l'enfance est volée. Notre magazine d'aujourd'hui prend son envol dans une province marquée par la violence et ses conséquences les plus tragiques, l'Ituri. Ici, la guerre a brisé de vie et volé l'enfance à de centaines de jeunes. Victimes de conflits armés, ces enfants sont aujourd'hui contraints à une lutte quotidienne pour la survie. On le croise comme commerçant ambulant dans les rues de Bounia ou exploité dans les mines artisanales, bravant de dangers inimaginables. Plusieurs organisations de défense de droits de l'enfant dressent un tableau alarmant de cette situation, particulièrement dans les territoires des Djougou, où l'école est souvent remplacée par le travail risqué dans les mines. Ézéchiel nous fait le point.
La ville de Bounia est régorgée d'enfants qui circulent à longueur des journées avec différentes marchandises sur la tête ou à la main à la recherche du pain quotidien. Nombreux viennent des sites de déplacés ou des familles d'accueil à la périphérie de la ville. Ils disent faire le petit commerce pour suppléer aux besoins de leur famille à bout des moyens, des survies, à la suite de l'insécurité qui les paupérise. Certains que nous avons rencontrés dans la rue disent avoir été plusieurs fois victimes d'un arc.
Quelqu'un venu un jour me demandait de lui servir de beignets d'une valeur de 2000 francs. Pourtant, je ne restais qu'avec des beignets qui coûtaient seulement 3500. Il est entré dans une clôture à côté. Il est parti sans me donner l'argent. Nous sillonnons partout. Des fois, nous retrouvons des personnes de mauvaise volonté. Quelqu'un va te dire de lui donner d'abord 8000 francs congolais et tu lui fais les œufs de 2000 francs. Pendant qu'il prend l'argent dans une boutique à côté, il part directement avec l'argent.
Si à Bounia, ses enfants peuvent circuler normalement, il n'en est pas de même dans le territoire des Djougou, en proie à l'activisme des groupes armés. C'est par exemple dans les centres des Boulé où la situation sécuritaire impacte beaucoup la vie socio-économique. Des milliers d'enfants sont privés du chemin de l'école aujourd'hui à cause des récents combats entre la milice Codeco et l'armée ougandaise qui ont duré presque tous les mois de mars dernier. Charles Panzambitso, coordonnateur de l'organisation Jeunes Patriotes pour la paix à Boulé.
Il y a 8 écoles primaires de Fataki qui sont fermées, il y a 7 écoles secondaires qui sont aussi fermées. Donc des milliers d'enfants sont jetés dans la rue et dans des conditions inhumaines. poulet, comme Njougou, en tout cas, est enfrié des déplacés qui sont venus. Vous allez trouver des petits enfants qui sont en train de quémander même. Et d'autres enfants sont en train de chercher quoi à manger en vendant des frites, en aidant les gens à puiser de l'eau. Et ils ne vont plus à l'école. Donc, pour trouver ces éléments, un petit rien, c'est ça la situation que les enfants sont en train de vivre.
Cependant, de nombreux enfants se retrouvent dans différents sites miniers dans ces territoires. Certains sont victimes des violences sexuelles, d'autres ont adhéré aux forces négatives. Ruth Biwaga, responsable de la division genre à Djougou.
Cette insécurité a causé beaucoup de problèmes par rapport à la protection de l'enfant. Beaucoup d'enfants se retrouvent dans les sites miniers. Même personnellement, ici à Mabanga, il y a la préoccupation majeure de ces enfants-là, qui se posent, qui sont non encadrés, qui dérivent par-ci par-là, sont des enfants en conflit avec la loi. Et à part ça, il y a des enfants dans les sites d'exploitation qui entrent dans le trou minier, dont on a depuis plus de 4 cas de décès au courant de ce trimestre, dans les sites de Mambisa et
Des structures d'encadrement d'enfants haussent les tons sur le non-respect des droits des enfants en Ituri, plongés depuis des décennies dans l'insécurité. Delice Wamusonia, responsable des structures d'encadrement d'enfants de la province, demande au gouvernement de prendre ses responsabilités en vue de rétablir la paix dans la province.
C'est vraiment une situation très alarmante parce que lorsque la France se retrouve dans une pareille situation, c'est déjà une violation de ce droit, parce que ce sont ces enfants qui sont l'avenir de demain. Et donc si aujourd'hui cet enfant-là n'a pas accès à l'éducation, et il est plutôt en train d'être utilisé comme petit empilant ou je ne sais quoi, et donc son avenir est hypothéqué, ça reste une question qui doit être traité urgemment par notre gouvernement.
A noter que d'autres enfants se retrouvent dans des groupes de combattants Mai Mai ou Azalendo dans le territoire de Mambasa où ils sont utilisés à des fins sexuelles ou comme porteurs de munitions ou encore comme des espions. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Le fléau de l'exploitation économique des enfants est également une triste réalité à Beni, Butembo et Lubero, dans la province du Nord Kivu, où la précarité expose de nombreux enfants à de formes de travail souvent invisibles mais bien réelles. On le voit arpenter les rues, vendant de quoi subsister ou offrant leurs jeunes forces comme porteurs sur de marchés animés. Si pour certains, ces maigres revenus sont une question de survie familiale, les défenseurs de droits de l'enfant sont unanimes. Il s'agit d'une violation inacceptable de leurs droits fondamentaux. Guylaine Kassassia.
Dans les quartiers de Matongué, sur la rue qui mène vers l'Europe Germano, par exemple, il faut attendre 18h30 pour commencer à voir ses enfants munis de brasero et de plaquettes d'œufs en train de préparer des œufs ou cuire les arachides qu'ils vont vendre la nuit. Cet enfant de moins de 10 ans que nous croisons au repoint Mama Stella à Matongué avec une plaquette d'œufs sur sa tête n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Il dit sillonner la ville toute la journée pour chercher des clients. Par jour, il affirme qu'il gagne en moyenne 10 à 15 000 francs congolais, recette qu'il remet à son patron qui le paye selon les entrées journalières. Nous nous sommes rendus dans les bas-fonds des Kilokois, derrière le marché central, à l'endroit communément appelé Mabondeni. Ici, de nombreux enfants sont utilisés par des femmes marchandes pour laver ou nettoyer les pattes et la peau de vache avant de les menés au marché. Témoignage.
Je suis en train de laver la peau des vaches, la queue et les pattes, communément appelées kinono. J'ai abandonné les études en sixième année primaire par manque de moyens. Par jour, je gagne ici 5000 francs et j'ai confié à ma grande sœur pour m'aider à épargner. Mon projet, c'est d'acheter un matelas, un lit et aussi contribuer au repas quotidien de la famille. Je regrette quand même le fait que je ne vais pas à l'école.
Ces enfants sont utilisés pour de maigres sommes d'argent. Après de lourds travaux, beaucoup se taisent simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de réclamer leurs droits. C'est désolé Bernadette Matungu, point focal de l'ONG Enfants pour l'avenir et développement ayant son siège dans les territoires de Lubero.
Vous pouvez voir par exemple les enfants garçons ou filles de moins de 18 ans qui sont exploités économiquement par les vendeurs des boissons, aussi des gens qui ont des fermes, des vaches, des chèvres, utilisent souvent les enfants de moins de 18 ans. Ils l'exploitent économiquement. Et vous voyez l'enfant là qui travaille, il ne sera pas payé comme une grande personne, parce qu'une grande personne, lui, peut quand même voir l'état et aussi le travail qu'il va faire. C'est à ce moment-là qu'il va fixer les prix. Mais les gens-là font recours souvent aux enfants, parce que les enfants n'ont pas de conscience, les enfants ne raisonnent pas. Et d'ailleurs, quand on lui propose quelques montants, il est déjà content parce qu'il va toucher aussi l'argent. Vous voyez aussi les enfants qui font des travaux dans les restaurants, ils sont exploités aussi économiquement. Toute la journée, l'enfant travaille, il lave les assiettes, il puise de l'eau, il peut même aller au marché. Mais quand vous demandez combien l'enfant reçoit, les mois, ça peut être 20 000 francs, 30 000 francs. Mais il y a aussi des enfants qui passent toute la journée là parce qu'ils vont uniquement que manger de la nourriture du restaurant.
Le Parlement des enfants de Béni qui déplore cette situation alerte sur les dangers que courent ces enfants pendant la nuit où ils exercent cette activité économique. Éloge Bakwanama, président du Parlement d'enfants en vie de Béni.
D'abord, dans notre constitution de la RDC, l'article 61, on dit « nul n'ignore la loi ». Et quand vous êtes en train d'envoyer ces enfants aller vendre des articles, vous êtes en train d'être contre la loi. C'est déjà une infraction. Vous allez être responsable de tout ce qui peut arriver à cet enfant. Il y a beaucoup de dangers que peuvent parcourir ces enfants. Des kidnappings, des accidents, des routes, on peut l'écraser, tout ça.
Certains acteurs de la protection des enfants parlent d'exploitation économique des enfants. Enoch Kambale Seikomia est l'un d'eux.
Nous allons prendre cette situation dans un cas aussi de l'exploitation économique parce qu'on ne sait pas où est-ce que cet enfant trouve l'argent pour les capitales et se garantir dans ses commerces. Où est-ce que cet enfant ses ressources et tout ça, ce sont les adultes qui commanditent cela.
Pour le bureau du genre famille et enfants, il y a nécessité d'harmoniser toutes les activités commerciales qu'exercent les enfants si l'on veut éviter des conséquences graves pour ces enfants. Ruth Sabouni, chef du bureau du genre famille et enfants en ville de Béni.
Avec les différentes recommandations, on est en train de demander au gouvernement de revoir le système éducatif d'enseignement au niveau congolais. Parce que finir les études avec 25 à 30 ans pour venir chercher travail où on sera payé, ce n'est pas aussi une garantie. Maintenant, avec l'expérience, on s'est dit, bon, apprenons aux enfants des petites activités qui peuvent générer et que, en grandissant, on aura à tête une idée qui dit que il faut toujours entreprendre pour avoir quelque chose de rentable. Ce n'est pas mal. Mais faisons toutes choses dans l'harmonie. Donc, je suis en train de recommander aux parents, les parents qui ont déjà octroyé ces activités à leurs enfants, ce n'est pas mal, mais il faut recadrer les choses. J'envoie mon enfant pour cette activité, il est quelle heure? Quelle est sa sécurité? Je lui garantis quoi? Parce que nous risquons de regretter encore dans les jours à venir par rapport aux conséquences qui vont subvenir. Nous les prodiguons quels conseils? En tant que parents, je suis en train de nous recommander le dialogue, mais aussi un bon suivi par rapport à ce que nous faisons à nos enfants comme activité commerciale.
Notons qu'avec la situation sécuritaire préoccupante en ville et à territoire de Béni, mais aussi à Lubero, le nombre d'enfants exerçant les activités économiques ne fait que croître. Béni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Merci, Accenté Sana, Guylaine Kassassia.
Okapi, Okapi, Okapi.
Notre exploration du fléau d'exploitation économique des enfants nous mène également au Kasaï oriental, à Mbujimayi, où une situation paradoxale frappe de plein fouet l'avenir de centaines d'enfants. Alors que la gratuité de l'enseignement ambitionne de démocratiser l'accès à l'éducation, la saturation des écoles publiques a engendré un effet perverse. Faute de moyens pour intégrer le privé, de trop jeunes enfants sont contraints de travailler pour leur propre survie. Sarah Sumbela et Pascal Tina Moula sont allés à la rencontre de ces visages d'une enfant sacrifiée par la nécessité.
Les marchés centrales de Bakwadianga en Mbujimayi offrent un spectacle poignant. Des enfants, parfois à peine sortis de la petite enfance, s'activent dans des petits commerces de fortune.
Bonjour Yaya, comment on t'appelle ?
Ici, on vend des sacs plastiques aux clients pressés. Là, des beignets encore chauds, des œufs ou quelques morceaux de fromage. Non loin de l'aéroport, d'autres enfants proposent des articles de toilette rudimentaires. Plus surprenant, de jeunes adolescents sillonnent la ville avec de véritables pharmacies ambulantes. Leur motivation derrière cette activité précoce, gagner de quoi payer leur scolarité dans des écoles privées, les établissements publics étant devenus inaccessibles en raison de l'afflux massif d'élèves liés à la gratuité de l'enseignement.
Je m'appelle Ndelela Mto.
Tu vends quoi au marché ?
J'ai un beignet.
Tu vends les beignets ?
Je m'appelle Mwenga Kabuja. Je vends les farines là.
Tu vends les farines pour quoi ?
Pour j'achète les habits, pour j'achète même des babouches.
Je m'appelle Lom. Je vais au marché pour chercher l'argent.
Tu fais quoi pour avoir l'argent ?
Je vais payer à l'école. Le sac.
Un sac chez toi coûte combien ?
Ça coûte 350.
Et alors celui-là coûte combien ?
200. Je vais travailler 7 jours.
Face à cette crise d'accès à l'éducation, la division des affaires sociales du Kasaï oriental a mis en place un programme de rattrapage scolaire. François Mukendi, chef de division, explique la nature de ce projet.
Ce sont généralement des enfants qui ont dépassé l'âge. Et l'enseignement des rattrapages est organisé en 3 années. Après les 3 ans là, l'EPC les admet au TENAFEP et ils ont les certificats, ils peuvent continuer les cycles secondaires. Après 3 ans, ils ont le même niveau que les enfants qui ont fait les cycles primaires normal de 6 ans à l'EPC.
Mbujimayi, une ville de près de 3 millions d'habitants, est confrontée à des défis socio-économiques majeurs, exacerbés par le manque d'infrastructures routières adéquates et l'enclavement. Dans ce contexte difficile, parents et enfants sont contraints de lutter au quotidien pour leur survie. Pascal Tinamoula, de retour de Mbujimayi, Radio Kapi.
Il n'étudie pas l'école des gens, il étudie à la trompette.
Merci à Pascal Tinamoula et Sarah Sombella pour ces reportages.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Kapi ont préparé ces programmes, le magazine Bano Kapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes heureux de vous retrouver après les infos pour la suite de Bana Okapi sur Radio Kapi, l'émission qui donne la parole aux enfants, aux jeunes et aux parents avec le soutien de l'UNICEF. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'aujourd'hui, notre magazine s'épanche sur une réalité sombre qui prive tant d'enfants de leur innocence et de leur avenir, l'exploitation économique des enfants. Dans la première partie de notre émission, nous avons entendu des témoignages poignants, de cris du cœur d'enfants contraints de travailler et de parents déchirés face à cette situation. Nous avons pris la mesure de l'ampleur de ces fléaux qui touchent toutes les régions de notre pays, des Litouri au Kasaï oriental jusqu'au rues animées de Kinshasa. Maintenant, il est temps de tourner notre regard vers l'espoir, vers ceux qui s'ébattent chaque jour pour allumer une étincelle dans l'obscurité de l'exploitation. Dans cette seconde partie de Bana Okapi, nous allons donner la parole à ces héros de l'ombre, les acteurs de terrain, les organisations non gouvernementales, les travailleurs sociaux, les éducateurs, tous ceux qui œuvrent sans relâche pour secourir, réhabiliter, éduquer et protéger ces jeunes victimes. Restez avec nous car l'espoir est en marche. Je suis Christelle Fritzi à la présentation de cette émission qui va se dérouler jusqu'à 17h, heure de la capitale congolaise. Dieu donné, Nyangasa wa Nyangasa sur la mise en onde sous la coordination de Christian Mapendanoya Chris et la supervision de Jean-Marc Matouaki Monfelele Dijano. Okapi. Le constat est implacable. L'exploitation des enfants n'épargne aucune région du pays. Après avoir entendu les réalités de l'Ituri, du Nord Kivu et du Kasaï oriental, notre regard se tourne vers la capitale, Kinshasa, où ces fléaux sociaux continuent de s'étendre, privant de milliers d'enfants de leur enfance et compromettant leur avenir. Dans les rues de cette métropole, nous avons recueilli la parole de ceux qui vivent au quotidien cette dure réalité, les parents. Leur témoignage oscillant entre la conscience de la nécessité de protéger leurs enfants et une profonde inquiétude quant à leur avenir. Il s'exprime au micro de Sulamit Kipuni.
Bonjour messieurs.
Oui, bonjour madame.
Est-ce qu'il vous arrive parfois de voir les enfants en train de travailler dans la rue?
Bien sûr, on le voit par-ci, par-là, sur le boulevard, partout dans des quartiers.
Oui, il y a des enfants qui travaillent, mais ce n'est pas permis dans notre pays. Mais on voit les enfants qui travaillent, hein. Des cirageurs, des enfants qui vendent des légumes.
Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui à cause de la pauvreté et tout. On voit des enfants dans la rue, oui.
Oui, j'en rencontre beaucoup.
Oui, on les voit, même ceux qui font les motards. Des fois même, on essaie de on s'approche d'eux pour les prodiguer des conseils. Mais si tu produis conseils, tu ne donnes pas l'argent pour qu'ils rentrent à l'école. Ça ne vaut pas la peine.
Ouais, les enfants cirageurs.
Évidemment, c'est tous les jours.
C'est chaque jour. À Kinshasa, ici, c'est presque tous les jours.
Oui, effectivement.
Qu'est-ce que cela vous fait en tant que parent?
Ça fait très mal, ça fait très mal. Parce que c'est pas permis aux enfants à ces âges-là d'aller vendre au marché ou d'aller trembler avec le jus fort dans la tête, par-ci, par-là. Ils vendent des coca, ils vendent des jus en plastique, ils vendent de l'eau sur la route, ils vendent des légumes, vous le racontez avec n'importe quoi. Ça fait mal tant que parent.
Mal, très mal même.
Mais ça doit toujours faire mal, maman.
Ça fait mal.
Bon, ça fait des regrets, des soucis, parce que assistant, l'enfant ne peut pas travailler, puis l'enfant ne peut pas étudier. Dès que l'enfant n'a pas l'argent, il n'aura pas l'état de faire les études. Et la vie aussi sera gâchée.
En tant que parent, pour moi, j'ai d'abord un sentiment de tristesse. À leur âge, ils devaient plutôt se reposer à l'école, en train d'être éduqués, instruits, pour qu'ils puissent devenir quelqu'un demain dans la société.
Ah, très mal. J'ai même des chairs de poule. Moi, je suis fragile, vous voyez. J'ai des chairs de poule. C'est triste. Mais bon. Oui. Et surtout si je rencontre des enfants à l'âge de mon fils. C'est vraiment touchant. Ça fait mal, oui.
C'est triste et malheureux parce que ça veut dire que les parents sont irresponsables, ils laissent les enfants dans la rue.
En tant que parent, c'est une interpellation. Je me dis que dans un premier temps, je n'aimerais pas être à la place de ces enfants-là parce que déjà, qu'au lieu d'être à l'école, ils sont en train de vendre. C'est déjà un problème. Et puis, comme parent aussi, c'est comme une motivation pour moi. Je me dis que je dois tout faire pour que mes enfants, jamais, ils ne se retrouvent dans pareille situation.
Quelles sont vos plus grandes inquiétudes quant à ces?
Les plus grandes inquiétudes, surtout par rapport aux filles, hein. Il y a des viols qui se font par rapport aux jeunes filles. Et le mineur, c'est vraiment un enfant mineur. Mais à cause de ça, elle peut se retrouver devant un prédateur et puis la personne abuse d'elle. Hein.
L'inquiétude est que le futur n'aura pas vraiment une jeunesse bien formée, une jeunesse bien éduquée, une jeunesse capable de se prendre en charge.
La plus grande inquiétude dans ça, c'est dangereux par rapport à leurs avenirs. Qu'est-ce que vous donnez à ces enfants-là? Aller vendre, oui, mais on ne peut pas dire, je suis responsable, je suis un parent, je ne peux pas dire que non, ce sont les parents qui les envoient aller vendre ou quoi que ce soit. Ça peut arriver aussi par leur propre volonté, mais les inquiétudes et que l'avenir de ces enfants-là sont où? Ils sont sur la rue. On n'assume rien d'eux, quoi. Et ce sont les enfants qu'on raconte aujourd'hui, ce sont devenus des Kuluna à un certain âge. Ils font l'impudicité, tout consort, ça nous envoie dans tout ça. Alors quand on voit tout ça, ça fait très mal.
Bon, quant à ce, je me plains quand même parce que le gouvernement devrait faire un suivi sur ça, puisqu'il voit les enfants passer à gauche et à droite. Il devrait vouloir encadrer ces enfants. Voilà.
C'est comme ce que je viens de le dire. Ça devient carrément une interpellation pour moi. Je me dis que je n'ai pas droit à l'erreur. Et aussi, je me dis que c'est une défaillance au niveau de notre gouvernement, au niveau de l'État, qui devrait en principe trouver des mécanismes pour pouvoir encadrer tous ces enfants-là.
Mais ils sont exposés à plusieurs choses. Par exemple, lorsqu'il pleut, ils ne savent pas se couvrir, ils manquent à manger. Vous voyez ? ils sont, quand ils sont malades, comment est-ce qu'ils font? Tout est compliqué, vous voyez. Donc je n'aime pas parler de ça, parce que moi je suis trop folle, ça me fait mal.
Oui, inquiétude peut y avoir, mais dans notre pays, c'est question de la pauvreté. Oui, tout le monde est pauvre, mais les gens aussi ne savent pas fructifier leurs efforts. La plupart des ressources, quand on est en vie, on est en bonne santé, on peut se créer quelques services qui peuvent régénérer des sous. Mais la plupart des gens sont...
L'inquiétude est que d'abord, ils peuvent être braqués. Parce que quand ils travaillent là, on leur donne quelque chose. Après, les voyous, les voleurs leur volent. Et puis deuxièmement, ces enfants sont incultes, hein. Ils sont illettrés, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école comme d'autres enfants. Ils profitent pas de leur enfance et tout. Alors ça fait quand même mal qu'ils ne jouent pas, qu'ils se comportent comme d'autres enfants et tout. Donc ils sont adultes avant l'âge. Donc tout ce que les enfants peuvent faire de leur âge, ils ne font pas tout ça.
C'est vraiment il manque à gagner pour la génération. Bon, l'inquiétude est que cet enfant-là qui fait le cirage, qui vend le papier, mais c'est pour quelle fin? Est-ce que c'est vraiment pour devenir à satisfaire sa faim ou sa soif, alors qu'il a tout un avenir? Et il peut même jouer un rôle, si on l'a bien encadré, il peut devenir quelqu'un qui peut contribuer à l'épanouissement de la société.
Selon vous, quelles sont les raisons qui font que les parents envoient leurs enfants travailler, notamment dans la rue?
Mais c'est la pauvreté. Au-delà de la pauvreté, beaucoup des enfants ont perdu leurs parents.
Ils disent que les difficultés familiales ou la pauvreté, je ne sais pas, mais moi je trouve pas. C'est pas évident en fait. Non, l'enfant est censé aller à l'école ou rester à la maison, vous l'apprenez des choses et tout. Bon, dès qu'il sera peut-être majeur, là au moins on comprend. Il peut aller chercher ou travailler.
La situation économique difficile pousse de nombreux enfants à assumer de responsabilités bien trop lourdes pour leur âge. Contraints de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, certains tentent courageusement de jongler avec leurs études, tandis que d'autres, avec regret, doivent sacrifier leur scolarité. Malgré les dangers et les épreuves du quotidien, ces jeunes font preuve d'une résilience impressionnante, voyant dans leur travail une manière d'épauler leurs parents. Suivez ces jeunes adolescents au micro des Grâces Mouezolo.
Bonjour. Bonjour. Je t'ai rencontré ici en train de vendre. Qu'est-ce que tu vends exactement?
Normalement, je livre des produits cosmétiques, soit devant chez nous, soit on m'appelle et puis je pars livrer quelque part.
Est-ce que tu peux nous raconter une journée normale pour toi quand tu travailles? Comment ça se passe?
En vrai, de soi, ce n'est pas vraiment normal, vu que quand on travaille, on est un peu stressé. À tout moment, je dois être à la guet, chercher, j'attends qu'on puisse m'appeler, aller déposer ou soit une personne passant mais s'intéresse à ça, c'est un peu stressé.
Bonjour.
Bonjour.
Toi aussi, je t'ai rencontré en train de travailler. Est-ce que tu peux nous raconter une journée normale pour toi? Quand tu travailles, ça se passe comment?
Bon, une journée normale, ça se passe assez dur, des fois bien. Ça dépend de la journée. Souvent, si tu commences tôt et qu'il y a des clients, ça se passe bien. Souvent, je peux être allé le matin jusqu'à 12 heures, pas de clients. Là, la journée devient un peu dure.
Qu'est-ce que tu fais exactement?
Je vends des crédits, je vends la parcelle.
Bonjour.
Bonjour.
Je t'ai rencontré en cours de route. Tu travailles?
Ouais, je travaille, je suis un récepteur dans une maison d'édition, des affiches. C'est ça un peu ce que je fais.
Raconte-nous votre journée normale, comment ça se passe?
Ma journée normale, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'activités, les gens viennent pour qu'on fasse pour eux les affiches. Et quand on confectionne, on fait des images, lorsqu'il y a beaucoup de gains, je me réjouis vraiment, ça me rend joyeux.
Bonjour.
Bonjour.
Je t'ai rencontré en cours de route en train de se promener avec des produits, qu'est-ce qui se passe?
En gros, je suis livreuse. Je livre des produits cosmétiques et des habits aussi.
Comment ça se passe la journée?
C'est vraiment dur. Avec les embouteillages, il faut toujours être à l'heure. Avec le soleil, parfois ça décourage, tu transpires. Peut-être tu arrives un peu en retard à l'endroit où on t'avait indiqué. Et cela va bouleverser un peu le montant qu'on te donne par jour.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais comme travail?
Je vends les arachides et la moimbe. C'est ce que je fais. Une journée normale pour moi, c'est quand je sors, je pars à l'école parce que je suis de l'avant-midi et que je rentre, je trouve qu'on a bien vendu et tout. Il n'y a pas eu des histoires qui se sont perdues parce que souvent quand je pars à l'école, donc je suis obligée d'aller à l'école et je ne peux pas rester surveiller ça. Je laisse ça souvent devant la parcelle et il y a des locataires de chez nous qui surveillent pour moi et souvent il y a des histoires qui se perdent, il y a des manquants et tout. Donc une journée normale pour moi, c'est quand quand je reviens, on me dit qu'il n'y a pas eu de manquant, on a tout vendu et on me remet l'argent en main propre. C'est là, pour moi, une journée normale. Bien sûr que nous partons à l'école. Nous partons à l'école parce que c'est obligé d'aller à l'école.
Tu arrives aussi à réussir à l'école?
Oui, déjà, il faut savoir que quand on a accepté de faire ça, donc faut avoir cette conscience de savoir séparer quand c'est l'heure de l'école, c'est l'heure de l'école. Quand c'est l'heure de vendre, c'est l'heure de vendre. Donc personnellement, pour moi, j'arrive à séparer. Quand c'est l'heure de vendre, je vends. Quand c'est l'heure de l'école, je viens étudier. Je réussis aussi.
Comment faites-vous pour combiner les travails et les études?
En vrai, il faut avoir l'horaire. Il faut savoir planifier. Il y a un temps pour tout. Ça m'aide quand je planifie, que je sais que je pars à l'école. En revenant, je dois me reposer, réviser, et puis là, je vais passer à l'autre chose.
Toi aussi, tu pars à l'école?
Oui, je pars à l'école.
Comment faites-vous exactement pour combiner les travails et les études?
Bon, c'est un peu dur. Souvent, je rate l'école. Souvent, à cause du travail, je suis obligé de rater l'école. Si, par exemple, le travail, ça exige que je puisse être là, c'est souvent, je sacrifie l'école.
Et vous arrivez aussi à réussir à l'école?
Des fois, je peux faire de mauvais résultats à cause du travail. Ça perturbe un peu les plans scolaires.
Lorsque vous échouez, par exemple, à l'école, comment vos parents réagissent?
Bon, et aussi, souvent, des fois, ils sont un peu déçus, mais des fois, ils comprennent vu les circonstances à laquelle on vit.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu pars aussi à l'école?
Oui, je pars à l'école. Je suis un écolier.
Comment vous arrivez à combiner les travaux et les études à la fois?
Bon, en fait, je divise bien mon temps, je gère bien mon temps parce qu'il y a un adage qui dit chaque chose en son temps. Pour moi, il y a un temps pour le travail, il y a aussi un temps pour étudier.
Tu arrives aussi à réussir facilement?
Ouais, je réussis parce que je gère bien mes temps.
Et tu pars aussi à l'école?
Oui, je vais à l'école.
Tu es en quelle classe?
Je suis en sixième des humanités.
Comment tu arrives à combiner les travaux et les études à la fois en tant que finaliste?
Certes, c'est vraiment difficile avec des livraisons que j'ai fait et l'école, c'est vraiment très difficile parce que il y a des autres temps où le travail t'oblige, t'exige, il te dit que non, tu dois être là, tu dois faire ça. Et pendant que les autres sont en train d'étudier, toi tu es là, donc tu es là, tu te dis que non, le travail d'abord, c'est pour peut-être nourrir la famille et tout. Mais l'école aussi, c'est important. C'est pour cela on dit toujours, faut savoir diviser le temps. Donc chaque chose a son temps.
Et tu arrives aussi à réussir facilement à l'école?
Réussir, je dirais temporairement. Parfois je réussis, parfois j'échoue.
Comment vos parents réagissent lorsque tu échoues?
Sans vous mentir, ma mère, elle est une personne vraiment très colérique. Parfois elle crie, après ça passe. Mais il suffit juste de prendre conscience que non, quand il faut étudier, il faut étudier. Et quand c'est le travail, c'est le travail.
Pourquoi tes parents t'ont laissé à faire ce travail?
Bon, avant, parce que ma mère était malade et vu que mon père il n'est pas ici, on est resté qu'à trois à la maison. Donc ma mère, elle est malade, c'est un peu pour l'aider à avoir un peu d'argent, peut-être épargner et manger aussi à la maison.
Mais vous savez que les droits congolais interdit les travaux des enfants?
Oui, mais là, je vois que je suis dans l'obligation de le faire parce que vu que ma mère, elle est malade et mon petit frère aussi, il va à l'école. Donc, je suis obligée de partir chercher un peu quelque chose pour manger.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement avec cet argent? Vous économisez aussi?
Parfois, oui. Mais la majorité, ce que je gagne, je le montre à ma mère. Et c'est elle qui gère ça souvent.
Moi, personnellement, mes parents m'ont laissé faire ce travail. C'est déjà pour subvenir à mes besoins. Il y a des temps, les parents, on peut leur demander l'argent comme ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Oh non, maintenant, j'en ai pas. Maintenant, des explications et tout. Donc, moi, personnellement, c'est pour m'aider à subvenir à mes besoins. M'aider par exemple, je peux pas avoir l'argent de transport, ça peut être long de demander à maman et tout. Vu que moi, papa et maman ne sont pas ici, je suis chez ma grand-mère. Et donc m'aider avec le transport, m'aider avec des petites choses, des trucs de filles et tout ça. Donc voilà.
Ouais, moi, mes parents m'ont permis à travailler.
Parce que souvent, ce qui gagnait, c'était un peu peu pour me scolariser et souvenir à mes besoins. Je travaille d'abord pour payer le Minerval pour moi-même et souvenir à quelques besoins. Souvent, ce que je gagne, je répartis en trois parts. Un pour les frais scolaires, l'autre pour mes besoins personnels, l'autre c'est pour la maison. En fait, j'étais obligé.
Est-ce que vous savez que ce sont tes parents qui doivent payer pour toi les frais scolaires?
Oui.
Mais comment vous-même vous prenez en charge quand un enfant?
Vu les circonstances qu'on vit, souvent ceux qui gagnent c'est trop peu. Non, je vais pas rester les bras croisés. Je dois aider. C'est pour ça que je suis obligé de faire.
Mais vous savez que la loi congolaise interdit le travail des enfants?
Oui. On sait que la loi interdit, mais vu les circonstances à laquelle on vit, si moi je travaille pas, je pense pas que j'étudierai. C'est pour ça que je suis obligé de faire.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez hein, quand vous travaillez dans la rue, vous faites des livraisons? Vous vendez des unités et tout ce que vous faites comme travail?
Pour moi, déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas respecter le métier d'une personne. Ils ne savent pas ce que l'autre ressent en faisant ce travail-là. Et tu peux être là, bien que tu es en retard, tu vends et tout, tu te dis que non, je dois arriver à temps. Premièrement, d'abord pour satisfaire les clients. Mais il y a des gens où il est là, il s'est dit que non, ce que tu fais, c'est pas important. Donc, on a vraiment des difficultés pour faire ce genre de trucs-là.
Personnellement, les difficultés que je rencontre, c'est lié lié au vol. Il y a des gens, ils savent pas comment tu as fait pour en arriver là. Comment tu fais pour acheter les arachides, pour acheter la moimbe et tout. Vous imaginez que tu laisses ça comme ça dehors et tout. À Outineka, là où il venait, il vient, il prend. C'est vraiment le vol que moi, je pourrais dire que je rencontre comme difficulté. Et souvent, quand il n'y a pas de courant aussi, on arrive à la machine parce que pour faire la pâte d'arachide, on arrive là à la machine et tout, il n'y a pas du courant, il y a plein de gens. Il faut être parent, faire passer l'un par un et tout, faire ça toi-même, les mains, tout ça. Donc, c'est le physique qui travaille au fait, les mains et tout. Et souvent, ça fait très mal et ça fatigue aussi et tout. Donc, c'est vraiment difficile.
As-tu un message particulier que tu voudrais adresser aux adultes, s'il y en a? Lesquels?
Moi, mon message, c'est de ne pas vraiment donner aux enfants de travail. Et là, c'est un peu comme de l'esclavagisme. Et à vous, les enfants, mettez d'abord les études. Parce que si vous finissez les études, c'est après ça que vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Radio Okapi.
Nous retrouvons maintenant Bernadette Kourabé, point focal de l'ONG Enfants pour l'Avenir et le Développement, EADEV. Cette organisation est très active dans les territoires de Loubérou, où elle mène un combat quotidien contre l'exploitation économique des enfants. Avec Guylaine Kassassia, Bernadette Kourabé va nous éclairer sur la forme la plus courante d'exploitation qu'elle observe sur les terrains. Suivez.
Bernadette Kourabé, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Quelles sont les formes d'exploitation des enfants les plus courantes que vous constatez sur le terrain?
Les formes d'exploitation que nous observons pour le moment dans notre communauté, surtout sur les enfants, ce sont surtout les exploitations économiques. Les enfants sont exploités économiquement. Comment? Surtout ceux qui vendent des boissons, ils utilisent souvent des enfants filles pour accueillir souvent les hommes qui viennent dans leur maison pour consommer les boissons. Donc les enfants filles facilitent la consommation des boissons dans des maisons de tolérance. C'est l'exploitation économique et aussi ça se passe aussi l'exploitation sexuelle de ces enfants-là. Il y a aussi le trafic d'enfants aussi qui se passe dans notre communauté. Vous voyez aussi les enfants qui font des travaux dans les restaurants. Ils sont exploités aussi économiquement. Toute la journée, l'enfant travaille, il lave les assiettes, il puise de l'eau, il peut même aller au marché. Mais quand vous demandez combien l'enfant reçoit le mois, ça peut être 20 000 francs. 30 000 francs pour celui vraiment qui a encore un cœur d'aide. Mais il y a aussi des enfants qui passent toute la journée là parce qu'il va uniquement que manger de la nourriture du restaurant. Ce sont des exploitations économiques que nous observons dans notre communauté.
Quelles sont, selon votre expérience, les causes profondes qui poussent les enfants à travailler et les familles à les y laisser aller?
Les causes de ces exploitations, il y a par exemple la pauvreté des parents. Les parents sont pauvres, ils ne sont pas capables de répondre aux besoins primaires de leurs enfants. Surtout pour les enfants filles, les enfants adolescents. Il y a aussi la nouvelle technologie. Les enfants veulent être à la mode. Ils veulent avoir des téléphones. Ils veulent être aux réseaux sociaux. Ça aussi pousse les enfants à être exploités économiquement, sexuellement. À part ça, il y a aussi l'irresponsabilité de certains parents.
Alors madame, quelles sont les actions concrètes que votre ONG mène pour aider ces enfants et leurs familles?
Nous avons des clubs d'enfants au niveau des écoles. Il y a les clubs de filles, les clubs de garçons et les clubs mixtes. Alors, nous sensibilisons aussi les clubs d'enfants sur leurs rôles et responsabilités au niveau des écoles, au niveau de la communauté. À part ça, nous sensibilisons les enfants aussi sur les référencements des cas d'abus. Si l'enfant est victime de cas d'abus, comment il peut référer le cas? Ça peut être au niveau de l'école, ça peut être au niveau de la communauté. Comment l'enfant peut arriver à référer le cas? Nous sensibilisons aussi les enseignants comment ils peuvent détecter un enfant traumatisé au niveau de l'école et comment l'enseignant peut encadrer l'enfant, comment l'enseignant peut référer l'enfant. À part ça, nous sensibilisons aussi la communauté sur le référencement aussi des cas d'abus et la protection des enfants dans les ménages, dans la communauté, pour donner au moins réponse ou soulager les enfants qui ont été victimes et aussi pour que la communauté soit informée comment ils doivent référer ou orienter les enfants qui sont victimes des différentes exploitations.
Pouvez-vous nous donner des exemples de réussite?
Nous, comme organisation EADEV, vraiment, nous avons beaucoup de cas de réussite à travers les clubs d'enfants et à travers nos différentes sensibilisations de la communauté. À travers les clubs d'enfants, vraiment, les enfants connaissent déjà comment référer tous les cas qui peuvent arriver chez l'enfant. Ils connaissent ça, je peux aller ici, ça je peux appeler EADEV, ça je peux aller à l'hôpital, ça je peux appeler EADEV pour m'accompagner, pour aider. Vraiment, les enfants sont informés à ça. Et la communauté aussi, quand il y a un cas d'abus ou d'exploitation, si un parent connaît l'enfant ou bien c'est un parent qui a trouvé l'enfant, il fait recours directement à nous. Il peut appeler sur téléphone ou bien il arrive à notre bureau pour informer comment on doit orienter ou comment on doit accompagner l'enfant.
Et pour finir notre entretien, que faut-il faire si on en est témoin?
Ce qu'on doit faire si on est témoin d'un cas d'exploitation ou d'un abus de l'enfant, je pense que la première chose à faire, on doit d'abord dénoncer. On ne doit pas se taire. On doit dénoncer pour voir comment pallier à tout ça. Parce que quand on a dénoncé et que l'auteur est bien connu, il sera puni et ça va diminuer au cas d'exploitation et de violence qui se passe dans la communauté. C'est ce qu'on doit faire si on est vraiment témoin d'un cas d'exploitation d'un enfant. On doit dénoncer ou bien orienter les cas.
Madame Bernadette Kourabé, merci.
Pour comprendre les blessures invisibles laissées par l'exploitation économique des enfants, nous accueillons aujourd'hui Marcel Otita, psychologue et professeur à l'Université de Kisangani. Ensemble, nous allons plonger au cœur de conséquences psychologiques et émotionnelles de l'exploitation sur les développements fragiles d'un enfant. Quelles sont les cicatrices profondes que laisse le travail forcé, la privation d'enfance? Le professeur Marcel Otita apporte son éclairage dans cet entretien avec André Kitenge.
Professeur Marcel Otita, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste André Kitenge.
Professeur, vous êtes psychologue. Quels sont les impacts psychologiques et émotionnels du travail et de l'exploitation sur le développement d'un enfant?
Oui, pour ce qui est de l'impact psychologique et émotionnel du travail de l'exploitation sur le développement d'un enfant, nous savons tous que lorsque les enfants sont utilisés, sont exploités, ces enfants connaissent de multiples problèmes. Entre autres, ils encourent vraiment des problèmes de violence liés d'abord au milieu du travail. Ces enfants peuvent être maltraités dans ces lieux-là. Ils peuvent connaître des violences, comme j'avais dit, qui peut être même physique et même psychologique. Ils peuvent être objets aussi d'agressions et même d'exploitation sexuelle quand ils sont en train de travailler dans ces conditions-là. Et aussi, il faut reconnaître que ces enfants n'auront pas aussi une scolarité normale dans la mesure où ils vont s'adonner à cette activité-là de travail, d'exploitation. Voilà, ils s'adonnent à ces activités-là et en même temps, sur le plan scolaire, ils sont tout simplement limités, freinés, à ce niveau-là et ce qui peut impacter maintenant leur avenir. Or, nous savons tous que l'avenir d'une nation dépend, entre autres, de sa jeunesse.
Alors, comment le fait de grandir dans la rue et d'être exposé à des dangers affecte-t-il la santé mentale et le bien-être des enfants?
Pour ce qui est du fait des enfants de grandir dans la rue, oui, ça c'est un élément important, c'est lorsqu'il y a des problèmes au niveau des familles, il y a certains enfants qui choisissent la voie facile de se retrouver dans la rue. Ils croient que dans la rue, il y a la liberté, ils peuvent vraiment se sentir épanouis, mais ce n'est pas du tout vrai parce que dans la rue, ces enfants-là font encore l'objet des violences. Ils sont obligés de se débrouiller et de se débrouiller en n'importe quelle situation. Ils doivent assurer leur survie seuls et à ce moment-là, voilà, ces enfants sont obligés de vivre vraiment en perturbation avec leur santé mentale. Ces enfants qui se retrouvent dans la rue, ils courent les dangers d'être violenté, le danger d'être bâti et autant de problèmes possibles qui peuvent leur mettre tout simplement dans un état d'inquiétude, d'anxiété et pourquoi même pas de dépression. Alors, ces enfants dans la rue, pour faire face à de nombreux problèmes qu'ils rencontrent, certains s'adonnent même à la prise des produits toxiques, des drogues, d'alcool, pour faire face à certaines frustrations qu'ils rencontrent dans leur milieu dans la rue. Et à ce moment-là, vous voyez que cela perturbe déjà leur santé mentale et leur bien-être aussi est perturbé dans la mesure où le bien-être de l'enfant ou d'un individu s'est construit à partir des sentiments de réussite, à partir de l'estime de soi qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Mais vous voyez que tous ces éléments-là restent un peu perturbés à cause de tout ce qui se rencontre dans la rue. Et aussi, le développement même de la personnalité de ces enfants posera des problèmes dans la mesure où ils n'ont pas des bons modèles à suivre pour pouvoir évoluer normalement. Donc, ils auront une personnalité un peu perturbée et aux prises à des difficultés. Et le plus souvent, ils tombent dans des personnalités antisociales ou dissociales, et ce qui n'est pas une bonne chose pour le développement normal et assurer le bien-être de l'enfant.
Comment soutenir cette catégorie d'enfants?
Je crois qu'il y a lieu vraiment que soit organisée d'abord la récupération de ces enfants et parler avec eux, réaliser des séances de psychoéducation, même des thérapies de groupe pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils font et que ce n'est pas une bonne chose et les amener à sortir de leur situation. Parce que on ne peut pas devenir adulte dans la rue, sinon on est déjà perdu. Mais si un enfant peut avoir, par exemple, déjà des projets de vie, partant de ces projets, il y a la possibilité de pouvoir les aider à concrétiser leur projet, mais en rentrant dans le système scolaire normal ou tout simplement apprendre des métiers, par exemple, et à ce moment-là, ils seront aussi des êtres utiles dans la société.
Nous allons finir notre entretien, professeur. Quels conseils donneriez-vous aux familles et aux communautés pour prévenir l'exploitation des enfants et favoriser leur épanouissement?
Aux familles et communautés, ce que nous pouvons donner comme conseil, l'enfant n'a pas demandé à la famille de naître, mais ce sont les parents qui ont cherché cet enfant. Quand l'enfant est là, il faut vraiment l'encadrer, il faut l'accompagner, il faut le protéger et que au lieu de le renvoyer dans la rue. Et aussi, nous pensons que ces enfants méritent aussi notre attention comme communauté parce que on ne peut pas les abandonner parce qu'il y a certains de ces enfants qui se retrouvent dans la rue, non pas seulement parce qu'ils ont été chassés par leurs parents, mais parce qu'ils ont aussi perdu leurs parents et ils sont des orphelins. Voilà, il faut que la communauté, l'État puisse réorganiser, par exemple, les orphelinats pour ceux-là qui n'ont plus des parents. Voilà, il faut les placer dans les orphelinats et trouver vraiment une structure d'encadrement pour ces enfants-là avec plusieurs experts spécialistes pour aider ces enfants et dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans les domaines du développement psychologique, psychoaffectif, et dans les domaines de la santé et la nutrition, tout. Donc il faut vraiment une équipe multidimensionnelle qui doit s'occuper de ces enfants-là. Et aussi, il faudrait que les personnes de bonne volonté, même des privés, puissent organiser des associations pour soutenir ces enfants afin que nous puissions vraiment protéger la jeunesse, parce que cette jeunesse est l'avenir de demain. Si nous n'avons pas une jeunesse qui est éduquée, une jeunesse qui est bien formée, quelle sera maintenant la nation, la RDC de demain?
Professeur Marcel Otita, merci.
Merci beaucoup.
Pour faire le point sur le cadre légal et les actions entreprises par le gouvernement, nous nous rendons à Kalemi, où nous avons joint M. Théophile Boulembe. Il est le chargé de l'étude et de la planification de la division provinciale du genre, famille et enfants. Il va nous éclairer sur le loi et politiques mises en place pour protéger nos enfants contre l'exploitation et le travail. Théophile Boulembe a été joint par Jeff Opila depuis Kalemi.
Monsieur Théophile Boulembe depuis Tanganyika, bonjour.
Bonjour, c'est les journalistes.
Selon vous, quelles sont les lois et les politiques mises en place par le gouvernement congolais pour protéger les enfants contre l'exploitation et le travail?
Au niveau de la République démocratique du Congo, bien entendu, d'abord la République démocratique du Congo suit avec beaucoup d'intérêt et met en application la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Et chez nous aussi, compte tenu du respect de ces instruments, la République démocratique du Congo aussi a édicté la loi en protection de l'enfant. C'est cette loi qui permet qu'on puisse respecter le droit de l'enfant. Et la place de l'enfant, c'est en famille. À part la famille, un environnement protecteur pour lui permettre vraiment de grandir et être un citoyen qui peut répondre favorablement à l'évolution de l'État.
Alors à ce stade, quels sont les mécanismes de contrôle et des sanctions prévues pour ceux qui exploitent justement ces enfants?
Les mécanismes que la République démocratique du Congo a mis en œuvre pour protéger les enfants contre les pires violations des droits de l'homme, nous avons les tribunaux pour enfants, nous avons aussi certains services qui concourent à la protection et qui mènent parfois des plaidoyers pour que les droits de l'enfant soient respectés. Entre autres, la division provinciale du genre famille et enfants, nous avons les affaires sociales, nous avons les droits humains, nous avons le tribunal pour enfants et puis aussi nous avons la police pour la répression des violences basées sur le genre. Cette même police concourt aussi à la protection aussi des enfants en province du Tanganyika.
Mais malgré les mécanismes et les contrôles qu'il y a et des sanctions même prévues contre tous ceux qui exploitent les enfants, mais aujourd'hui on constate de plus en plus des enfants vendeurs dans la rue, n'est-ce pas une forme d'exploitation? Et qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui en leur faveur?
Mais le pire est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la situation conjoncturelle et structurelle, nous voyons encore des enfants dans la rue, des enfants dits de la rue. Au niveau du Tanganyika, ce phénomène est dit suite aux catastrophes naturelles et humaines. Vous savez que le Tanganyika a connu les conflits intercommunautaires et ces conflits intercommunautaires et autres effets néfastes sur la situation conjoncturelle a fait qu'il y ait un déplacement massif des gens vers d'autres territoires. C'est-à-dire on constate le mouvement des déplacés et des retournés. Et les enfants qui sont dans la rue, ce sont des enfants qui n'ont pas un bon accompagnement et manquent de responsabilité parentale pour qu'ils puissent étudier. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à ce niveau-là pour qu'ils puissent aussi jouir? C'est d'abord mener des activités de sensibilisation sur la Convention relative aux droits de l'enfant, faire des plaidoyers auprès de l'autorité politico-administrative que le droit de tous les enfants soit d'application au niveau de la province et de punir les coupables qui violent le droit de ces enfants. Parce que la place de l'enfant n'est pas dans la rue, mais la place de l'enfant, c'est dans un ménage responsable, un ménage qui concourt à l'éducation scolaire de cet enfant.
Mais selon vous, quelles sont les initiatives concrètes du gouvernement pour offrir des alternatives pareilles aux enfants travailleurs, par exemple?
Les initiatives concrètes du gouvernement sont, par exemple, au niveau du Tanganyika, nous organisons des célébrations commémoratives de la Journée internationale de l'enfant. Nous avons aussi des partenaires qui nous encouragent à initier et à installer des activités comme les enfants reporteurs, le parlement d'enfants, réipper les réseaux des encadrés, initier la participation. Toutes ces structures-là concourent à la stabilité et à la promotion du droit de l'enfant.
Oui, M. Théo, aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire au niveau du ministère du genre, famille et enfants. Et quels sont les défis majeurs que le gouvernement rencontre dans la lutte contre l'exploitation des enfants et comment compte-t-il le surmonter?
Quand bien même qu'il y a d'autres difficultés qui font que nous ne puissions pas vraiment aller de l'avant, mais quand même, il y a plus de défis majeurs pour que nous puissions vraiment lutter contre l'exploitation des enfants. Parce qu'avec la situation actuelle, dans un milieu où les urgences sont au top, avec les catastrophes naturelles, avec l'insécurité, avec la situation de la pauvreté de certaines familles, et que cette exploitation, peut-être des enfants dans des mines, peut-être des enfants qui vendent de l'eau, pose un sérieux problème. Les défis sont énormes et ça demande vraiment le concours de tout un chacun pour trouver des solutions idoines, pouvoir répondre aux besoins spécifiques des enfants, pouvoir mener par tous les moyens que tous les enfants puissent jouir de leurs droits.
Oui, Monsieur Théophile Boulembe, avant de quitter, y a-t-il un message à adresser aux familles, aux employeurs et à la société civile concernant la protection justement de l'enfance?
Question de réseau pour les familles. Mon souhait est que, quelle que soit la crise, quelles que soient les difficultés, nous, en tant que parents, nous devons prendre nos responsabilités. Et la responsabilité que je demande aux parents, c'est multiplier les efforts pour la scolarisation des enfants, en tenant compte de l'égalité des sexes. Et pour la société civile, de faire parfois des sensibilisations, de s'impliquer et d'aider le gouvernement à mettre en application les différents instruments des droits de l'enfant, de sorte que nous tous ensemble, nous puissions être dans une même coordination qui vise la promotion des droits de l'enfant, afin que nous puissions non seulement lutter contre l'exploitation des enfants, mais lutter contre toutes les formes de violation grave des droits de l'enfant.
Voilà un peu d'une manière concrète ce que nous pouvons parler de la situation et des questions nous demander cassées.
Monsieur Théophile Boulembe, je rappelle que nous vous avons joint depuis Calémie. Vous êtes chargé de l'étude et planification au niveau du ministère du genre, famille et enfants à Calémie, dans la province du Tanganyika. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.
Voilà qui conclut notre émission d'aujourd'hui sur l'exploitation économique des enfants en République démocratique du Congo. Nous avons entendu des témoignages poignants, des analyses éclairantes et des appels à l'action. Mais au-delà du constat, retenons un message essentiel. L'inaction n'est pas une option. Chaque enfant a droit à son enfance, à l'éducation et à la protection. Agissons tous ensemble, à notre échelle, pour briser les chaînes de l'exploitation et construire un avenir où chaque enfant pourra enfin rêver et s'épanouir. Merci de nous avoir suivis sur Radio Okapi. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Souhaitez-vous réécouter cette émission, revivre ces moments forts ou encore découvrir nos autres productions? Rendez-vous dès à présent sur le site de Radio Okapi. www.radiocapi.net. Et n'oubliez pas, la discussion ne s'arrêtera pas là. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Banao Capi pour partager vos impressions et poser vos questions. Nous serons ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission sous la mi Kiponi, Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Plotin et Ambenga, Guylaine Kassassia, Pascal Tinamoula, Grace Mvoezolo, André Kitenge, Stanislas Dumi, Kelvin Baeni, Greta Lulendo et Sarah Sumbela. Merci également à Christian Mapendanoya Chris pour la coordination de ces programmes, à Jean-Marc Matouaki, Monfélélé Dijano pour la supervision et à Dieudonné Nyangasa Wanyangasa pour la mise en onde. Je suis Christelle Fritti à la présentation. À tous nos auditeurs, merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Banao Capi. Ciao.